Bonne pulsation du monde, tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
RFI, 7h30, à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Et la une ce matin, le lourd bilan des combats des derniers jours à Goma, dans l'est de la RDC. Au moins 700 morts, selon les Nations Unies, qui déplorent également de nombreuses violations des droits humains. Alors que le gouvernement congolais tenait hier son premier conseil des ministres depuis le début de ces événements. Des événements qui deviennent par ailleurs très compliqués à couvrir pour les journalistes soumis à des restrictions drastiques, vous l'entendrez. Au Cameroun, Paul Biya peut compter sur de nouveaux soutiens en vue d'une éventuelle candidature pour la présidentielle d'octobre prochain. Après les chefs traditionnels il y a quelques jours, trois partis d'opposition ont annoncé hier se ranger derrière lui. Une voix critique ensuite au Congo-Brazzaville. L'opposant Dave Mafoula tacle vertement le bilan du président Sassou Nguesso et l'appelle à passer la main à 80 ans. Et puis, notre dossier sur les African Stars, un programme de bourse pour renforcer la formation des scientifiques du continent dans le domaine de la santé. Des exécutions sommaires, des viols, des atteintes aux droits humains. Voilà le sombre tableau dressé par les Nations Unies autour de la situation ces derniers jours à Goma, dans l'est de la RDC. Le chef-lieu du Nord Kivu, où les éléments du M23 soutenus par le Rwanda ont pris position dans plusieurs quartiers. Sur place, entre dimanche et jeudi, toujours selon l'ONU, les combats avec l'armée congolaise et les milices Wazalendo ont fait au moins 700 morts et plus de 2800 blessés. Lisa Fabian.
La crise humanitaire et les violations des droits humains s'aggravent à mesure que les hostilités s'étendent dans l'est de la RDC. Le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, Jeremy Lawrence, est revenu sur les exactions qui ont pu être documentées ces derniers jours.
Depuis le début du conflit, des bombes ont touché au moins deux camps de déplacés, faisant des blessés parmi les civils. Nous avons aussi documenté l'exécution sommaire d'au moins 12 personnes par le M23. Les rebelles ont occupé des écoles et des hôpitaux dans certaines zones, en forçant la population civile à se battre ou à travailler. Conscription
and forced labor. La prolifération des armes à Goma exacerbe les risques de violence et d'abus, selon Jeremy Lawrence.
Les autorités congolaises ont aussi rapporté qu'au moins 165 femmes ont été violées par des prisonniers au cours de l'évasion de 4000 d'entre eux de la prison de Goma.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé à la fin des violences et au respect du droit international.
Et de son côté, Lisa Fabian, la SADC réitère son soutien des à Kinshasa. La communauté de développement d'Afrique australe a organisé hier un sommet extraordinaire à Harare. Son pays étant membre, le président Tshisekedi a participé en visioconférence. Mais la position de la SADC est toutefois en deçà des attentes congolaises. Kinshasa espérait en effet un appel au retrait des troupes rwandaises et une condamnation officielle à l'endroit de Kigali. En tout cas, le gouvernement congolais s'est également réuni hier dans la capitale Kinshasa pour le tout premier conseil des ministres depuis l'offensive sur Goma. Situation qui était évidemment au cœur des discussions avec plusieurs annonces du président Tshisekedi. Compte rendu, signé Pauline Azidi.
Le destin de notre population est mis à l'épreuve, a déclaré en préambule de son compte rendu le ministre de la Communication Patrick Muyaya, et de reprendre les mots du président prononcés au début de la réunion. Chaque jour, nos vaillants soldats tombent au front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Un carnage humanitaire s'opère et nous ne devons pas rester inactif. Nos compatriotes attendent de nous une réponse forte. Le président a donc demandé la mise en place d'un plan d'urgence humanitaire. Le gouvernement doit travailler avec les partenaires pour répondre aux besoins des populations, a déclaré le ministre Muyaya. Il a aussi rappelé l'appel à l'effort de tous, impératif pour les institutions de l'État d'adopter un train de vie plus sobre pour participer à l'effort de guerre. L'objectif est de pouvoir donner une prime à tous les soldats, policiers et Wazalendo, et de les renforcer en équipement. Enfin, le président est revenu sur le front médiatique. Il faut lutter contre la désinformation. Cela doit cesser, a-t-il dit. Pour une communication plus responsable, le gouvernement est donc invité à créer une cellule de crise avec pour mission d'unifier et de coordonner la communication sécuritaire. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Une cellule pour unifier et coordonner la communication sécuritaire en RDC, on vient de l'entendre. Alors que les autorités congolaises ont déjà serré la vis à l'égard des médias pour cadrer la couverture de ce conflit, médias nationaux comme internationaux, le travail des journalistes est contrôlé de près, soumis désormais à une liste de restrictions émises jeudi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Interdiction, par exemple, de diffuser des informations sur la guerre sans se référer aux sources officielles. En réaction, le Comité pour la protection des journalistes, basé aux États-Unis, s'inquiète de tentatives de contrôle de l'information. Angela Quintal est la responsable de son programme Afrique.
Évidemment, avec l'avancée du M23, la pression augmente. Nous avons bien vu que l'autorité de régulation des médias a mis en garde les médias internationaux qui risquent la suspension en cas de faux pas. Mais il ne faut pas oublier non plus le sort des journalistes congolais sur place qui font face à des intimidations. Certains reçoivent même des menaces de mort et celles-ci viennent de tous les côtés. Donc le résultat, ce n'est pas simplement la censure, mais aussi l'auto-censure. C'est évidemment inquiétant car il est essentiel que l'information circule librement, particulièrement dans une situation de crise. Et ça ne s'applique pas qu'à la RDC. Partout dans le monde, il y a des gouvernements qui essayent de contrôler le récit qui est fait de certains événements. Et il n'y a pas que les médias qui sont perdants à ce jeu-là. Il y a aussi le grand public parce que les gens ont besoin de savoir ce qu'il se passe. Ce sont des informations qui sont d'intérêt public.
Mais la réaction d'Angela Quintal du Comité pour la protection des journalistes. L'Est de la RDC, où le M23 n'est pas le seul groupe actif. Les ADF continuent aussi de faire régner la terreur dans la province de l'Ituri. Il serait à l'origine de la mort d'au moins 28 civils à la suite d'une triple incursion jeudi. Selon la société civile, les attaques ont eu lieu en territoire d'Irumu, dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vonkutu. La majorité des victimes, des villageois, ont été massacrés à l'arme blanche. Plusieurs autres personnes de ces villages, dont des enfants, ont quant à eux été enlevés par des assaillants. Les armes qui s'expriment toujours par ailleurs au Soudan, où le général Hemeti promettait hier de chasser l'armée régulière de Khartoum. Il assure que les hommes du général Al-Bourhan ne garderont pas longtemps le contrôle du QG de l'armée qu'ils ont repris en fin de semaine dernière dans la capitale, à l'heure où le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme alerte, lui, sur de possibles exécutions sommaires de civils par l'armée régulière, justement, à Khartoum Nord. De son côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne fermement les frappes des FSR qui s'intensifient en ce moment sur la ville d'El Fasher, la dernière capitale des 5 États du Darfour, toujours aux mains de l'armée.
Yaoundé, 105.5 FM.
Allez, l'arène politique camerounaise à présent dans ce journal et le président Biya qui peut compter sur de nouveaux soutiens en vue d'une éventuelle candidature pour la présidentielle d'octobre prochain. Après les chefs traditionnels il y a quelques jours, en effet, 3 formations politiques de l'opposition ont annoncé hier qu'elles portaient leur choix sur l'actuel chef de l'État s'il venait à briguer à nouveau sa propre succession. Ces formations, il s'agit de l'UPC, du MDR, mais aussi du PCRN de Cabral Libi. À Yaoundé, précision de Polycarpe Samba.
Les différentes délégations reçues l'une après l'autre par Paula Tanganji, le ministre de l'administration territoriale, étaient toutes porteuses du même message, le soutien à la candidature du président Paul Biya. Le MDR, dont le fief électoral se situe dans l'extrême nord, a souligné que le choix porté sur Paul Biya était un choix d'évidence, son président Daïsala Tigana.
Le MDR, c'était une évidence. Allié depuis fort longtemps, nous sommes même le premier allié du RDPC. Nous avons, comme vous le savez tous, toujours soutenu le président Paul Biya.
Maire élu du PCRN, parti balloté entre 2 factions et dont il est aujourd'hui exclu, Jean-Jacques Mbongol III a dit par ce soutien vouloir tourner le dos à des décennies d'opposition stérile.
Nous, particulièrement à l'Union Ekélé, ça fait 40 ans nous sommes dans l'opposition. Une opposition stérile qui ne nous apporte rien. Il est peut-être temps de comprendre qu'il faut s'allier avec le président de la République, le chef de l'État, le père de la nation.
Robert Kona, le fondateur du PCRN, qu'une profonde brouille oppose à l'actuel président du parti, Cabral Libi, candidat déclaré à cette élection présidentielle, a lui aussi fait le choix du candidat naturel du RDPC. Au nom a-t-il avancé que Paul Biya est l'assurance tout risque pour le Cameroun. Un soutien qui jette un sérieux coup de froid sur la candidature de Cabral Libi, tout comme à l'UPC au bas Paul Lepot qui conduisait la délégation du parti, a dit que Paul Biya est la réincarnation du nationaliste Ruben Oumyobe, leader historique et fondateur de l'UPC. Et ce, en dépit des autres annonces de candidature déjà exprimée au sein du même parti. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
La politique du Congo-Brazzaville est cette sortie pour le moins remarquée. En conférence de presse jeudi, l'opposant Dave Mafula a vivement critiqué le bilan du président Sassou Nguesso, qui cumule 40 ans à la tête du Congo. À 43 ans aujourd'hui, Dave Mafula était le benjamin des candidats pour la présidentielle de 2021. Et il juge catastrophique le bilan du chef de l'État, âgé lui de plus de 80 ans. Un bilan qui serait marqué par la violence, selon Dave Mafula, qui l'invite donc à passer la main. Je vous propose de l'écouter.
La gestion de Sassou aujourd'hui se résume à un seul mot, violence. Les Congolais, depuis 79 jusqu'à aujourd'hui, vivent la violence sous toutes ses formes. Parce que on ne peut pas comprendre que dans notre pays, avec la richesse que nous avons, que les Congolais manquent d'eau, manquent d'électricité, manquent de travail. Ce n'est pas normal. Le bilan, il n'est pas seulement catastrophique, il est dangereux. Ce bilan, je vous ai dit, il n'est émaillé que de violence. Et je pense que pour Monsieur le Président, il serait temps pour lui de réfléchir à comment aller s'asseoir et laisser les jeunes prendre le relais. Je pense qu'il faut qu'il réfléchisse. Quand il va écouter ce message, il faut qu'il réfléchisse. Je ne sais pas s'il est pris en otage, mais il a sa conscience. Et il faudrait qu'il interroge d'abord sa conscience. Parce que nous serons nombreux à lui dire que nous ne voulons plus de lui en 2026.
L'appel de Dave Mafula, opposant du Congo-Brazzaville. Notre dossier du jour sur RFI, cette initiative qui vise à soutenir sur le continent la formation des scientifiques et précisément dans le domaine de la santé. Initiative baptisée African Stars, elle a été lancée en janvier, déjà financée à hauteur de 9 millions de dollars par la fondation Mastercard. Elle est portée en partenariat par le Centre pour la réponse aux épidémies et l'innovation de l'Université sud-africaine de Stellenbosch et par l'Institut Pasteur de Dakar également. Concrètement, Claire Bargelès, dès cette année, les scientifiques du continent pourront avoir accès à des bourses qui permettront de suivre des programmes dans ces deux institutions afin de renforcer les capacités africaines.
Alors que l'Afrique porte le poids d'un grand nombre de crises sanitaires, elle manque de scientifiques formés pour y faire face sur place. C'est de ce constat qu'est née cette initiative African Stars, avec l'ambition de créer une génération de jeunes leaders dans le secteur de la santé. Et ce, afin de faire progresser la recherche, mais aussi de permettre la création de nouvelles technologies qui correspondent aux besoins du continent. C'est pourquoi ces bourses visent aussi à développer les compétences entrepreneuriales des futurs diplômés, avec des cours de finance, de gestion de projets ou encore d'innovation. Des besoins qui ont notamment été mis en lumière, selon les scientifiques du programme, durant la pandémie de Covid-19, où le continent est apparu très dépendant de l'importation de vaccins. La première phase du programme financera 131 boursiers sur une période de 3 ans. Ils pourront suivre 4 cursus différents, allant de quelques mois à 2 années, dans des champs comme la génomique, la biotechnologie ou encore les maladies infectieuses. 60% des bourses seront réservées à des femmes et l'ensemble des étudiants devront représenter équitablement les différentes régions africaines.
Claire Bargelès, c'est le domaine médical sur le continent qui est également confronté à la fuite des cerveaux. Mais certains tentent d'inciter les chercheurs africains à rester. C'est le cas de bourses de recherche proposées notamment par l'organisation Santé, réseau d'Afrique subsaharienne de recherche autour de la tuberculose et du HIV. Victoria Kasprovitch est à la tête des programmes de l'organisation.
Par le passé, les recherches étaient traditionnellement menées en dehors du continent, avec des prélèvements exportés à l'extérieur des pays, et cela a contribué à ce que les infrastructures locales ne soient pas suffisamment développées. Si ce modèle continue, la science en Afrique ne va jamais progresser. Je pense que les réponses sont entre les mains des scientifiques africains qui peuvent étudier les questions cruciales sur le terrain. Ils sont les mieux placés pour y répondre de façon optimale. S'il y a de la distance entre les chercheurs et les communautés, cela pourrait conduire, par exemple, à passer des années et dépenser beaucoup d'argent pour créer un vaccin dont personne ne voudra, ce qui serait de l'argent gaspillé. En résumé, il faudrait être moins dépendant d'autres parties du monde. Mais le plus important, c'est que si des vaccins ou autres sont développés à l'extérieur de l'Afrique, ils ne seront jamais adaptés, car il y a ici des données génétiques et des environnements différents qui influencent tout cela. Donc, c'est ce sur quoi on travaille et chaque organisation tente de faire la différence. J'espère que tous ensemble, on avance vers la bonne direction.
Victoria Kasprovitch de